Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 4, suite, incarnation de Sabas, l'orgie militaire. La gloire du grand Gélon, le bon tyran qui repoussa Carthage, avait en Sicile et partout perverti les idées. Dans les sept sages, on comptait deux tyrans. Chef du parti contraire à l'aristocratie, le tyran se donnait pour ami et bienfaiteur du peuple. Son bon père nourricier qui le ferait boire et manger serait son Bacchus, sa Cérès. Pour le flatter, d'après ses dieux, on l'appelait souvent Dionysos, Denis, Démétrios, de Déméter, Cérès. Mais nulle dynastie de tyrans n'avait duré. Il surgissait, tombait. Pour en faire un solide, il fallait hors de Grèce une base, un point fixe. Chercher cet appui chez les Perses, c'était trop odieux. Le rusé roi de Macédoine, Philippe, comprit parfaitement que la vraie base serait demi-grec et demi-barbare. Que s'il pouvait, autour de sa petite Macédoine, grouper la rude Épire et la Thrace sauvage, surtout la Thessalie, le pays des centaures, toute cette fausse Grèce très guerrière lui serait une épée terrible contre la vraie, épuisée, divisée. Il fit deux choses très habiles. Il délivra la Thessalie de ses tyrans, se fit ami et chef de l'admirable cavalerie thessalienne. Il honora l'Épire en y prenant une reine, et par là s'assura les vaillantes tribus albanaises, leurs fermes fantassins. C'est le secret de sa victoire. C'est aussi celui de sa mort. Il périt pour avoir épousé la femme épirote. On connaît ce pays, l'Albanie d'aujourd'hui, 1863, de discordants contrastes, si petit et pourtant comptant 14 peuples. Un éternel orage y frappe incessamment les monts céroniens de la foudre. Vieux volcans, tremblements de terre, fiévreuses alluvions de torrents, voilà les pires. D'énormes chiens féroces, mais l'homme bien plus féroce encore. En tout temps, force assassinat. Les femmes mêmes armées, farouches, les violentes, dominées et des vieux esprits de la contrée aux forêts de Dodone, et des démons nouveaux de Thrace et de Phrygie. Elles naissaient bacchantes et sorcières, savantes aux herbes dangereuses du rêve ou du poison. Leur joie était, à l'instar des Médées thessaliennes, de se rouler de belles, d'ondoyantes couleuvres aux bras, aux seins. Elles disaient avoir jadis, par leur seul hurlement, par leur serpent, mis des armées en fuite. Vaine fable. Ces bêtes innocentes étaient plutôt sur elles une parure de prostitution. Hercule, dit-on, avec dégoût, horreur, vit dans ces terres barbares commencer l'orgie syriaque, phrygienne, d'Adonis et d'Attis Abbas. Ces reines du Tirse et du Poignard, d'orgueil viril, s'y roulaient au niveau des fausses femmes ou demi-hommes. Les Attis, impudiques, soi-disant mutilées, marchand d'amour stérile, de songe et de vin du ruisseau. Si de la sainte orgie un fruit naissait, miracle, l'enfant n'était le fils d'un dieu. Manière de serpents, charlatans inspirés, danseurs et tourneurs de Sabas, bacchantes et bacchants de Bacchus, tout se tenait. La fille qu'épousa Philippe était de celles qui jouaient des serpents. Elle était protégée par les plus grands oracles, tous alors soumis à Bacchus. Philippe le sut peut-être et crut s'en faire un instrument. Il fut pris à ses propres ruses. Elle s'appelait Myrtale, mais par une ambition impudente, elle se faisait appeler Olympias. Après la noce, elle le dit hardiment à Philippe que la veille, elle avait conçu, qu'elle avait eu le rêve de s'émêler un déluge de feu. La foudre avait rempli son sein et de là toute la terre. Il goûta peu la confidence. Il eut l'idée que cette foudre dont elle était enceinte lui porterait malheur. il fut curieux de savoir pourquoi elle était seule la nuit, regarda par un trou et près d'elle vit coucher un grand serpent qui le dégoûta fort. Il comprit que sa reine était une affiliée des rites malpropres de Sabas. La vaste confrérie, mêlée à celle de Cybèle et Bacchus, embrassait les bas-fonds de la prostitution, les coureuses et les charlatans, vendeurs d'amour, de prières, de remèdes, d'avortements et de poisons. S'il chassait cette femme, il révoltait les pires. Il mettait contre lui un monde de bacchants et de bacchantes. Il dut le croire quand l'oracle de Delphes, consulté par lui, répondit qu'il devait faire offrande au dieu qui lui avait fait tant d'honneur que pour l'impiété d'avoir regardé par ce trou, il perdrait l'œil. Mot qui courut en Grèce et qui fit faire la chose. Un adroit archer s'en chargea. Bâtard ou non, l'enfant Alexandre grandit. Sa mère n'avait rien négligé pour faire croire à la fable de sa naissance. Partout, elle avait des serpents, en logeait dans des vases, des corbeilles, d'où ils sortaient, se lançaient en sifflant, non sans effroi des visiteurs. L'enfant, né levé au milieu de ces comédies, se crut fils de Bacchus Sabas. Pour imiter la grâce de Bacchus, l'abandon du beau paresseux, tel qu'on le voit dans les statues, il inclinait le cou à gauche. Cependant, comme Sabas était trop synonyme de menteur et de charlatan, on dit que c'était Zeus Sabas, et plus tard, Alexandre se donna les cornes d'Amon. Rien n'était moins grec qu'Alexandre, rien de plus opposé au héros grec, Ulysse ou Thémistocle. Il avait le vrai sang du Nord, était très blanc, avait un autre trait qu'on ne trouve jamais au midi, les yeux humides, avec des lueurs de fureur sanguine ou d'ivresse. Bref, un parfait barbare, plein d'élan, mais buveur, colère, capable de grands crimes et de grands repentirs. On sait qu'il eut parfois cette indigne aventure, inouïe pour un grec, de tuer dans l'ivresse un ami de sa main. Le visage, très probablement, disait trop haut la barbarie native, car il semble avoir craint qu'on ne le fît ressemblant, et défendit, sous peine de mort, de s'écarter du type officiel de son artiste, le grand fondeur Lysippe. Jusqu'à 13 ans, Philippe l'oublia, le laissant entièrement à sa mère, si négligé qu'il n'apprit même pas les exercices les plus ordinaires en Grèce. Il ne sut point nager. Philippe avait un héritier, son bâtard Aridé, bien né et bien doué. Olympias y pourvut secrètement par certains breuvages qui lui brouilla le sens. Philippe eut alors à songer à qui il laisserait l'œuvre précieuse de sa vie, un état, une force créée par tant d'art et de ruse. Cet homme vraiment supérieur était très froid, n'avait nulle répugnance pour l'enfant quel qu'il fût, qui semblait intrépide et que beaucoup appelaient fils des dieux. Il l'adopta. De 13 ans à 17, il le mit dans les mains d'un client de sa famille, un très grand esprit, Aristote, mais si grec et si réfléchi qu'il était justement le plus impropre à avoir prise sur cette jeune nature barbare. Aristote, d'ailleurs, Lutard, formé par son indigne mère et par sa légende menteuse, déjà dieu, entouré des bas-flatteurs d'Olympias. Le maître qu'Alexandre aima filialement ne fut point Aristote, mais son sot nourricier, certain Léonidas, qui ne parlait que de l'Asie, de l'Inde, des victoires de Bacchus que le petit garçon n'allait renouveler. Ajoutez un concert d'oracles qui annonçait jusqu'au moindre détail de sa conquête future. Philippe était arrivé au plus haut. Vainqueur à Chéronée, il avait eu la gloire de la modération, refusant tout triomphe et renvoyant les prisonniers. Sa grande œuvre était faite. Non seulement il était fort, mais il était aimé. Nombre d'hommes sincères croyaient que la Grèce sans lui ne pourrait accomplir sa mission dernière, l'hellénisation de l'Orient. Ce n'était rien que de le vaincre. Il fallait y faire pénétrer les mœurs, les lumières helléniques, coloniser, civiliser, rendre désirable ce grand changement. Nul ne pouvait le faire mieux que Philippe. Élevé chez Épaminondas, il avait, sinon ses vertus, du moins sa patience et sa ferme douceur. Il avait ce qui fit défaut aux fougueux Alexandre, la notion du temps, des tempéraments nécessaires sans lesquels la conquête n'était qu'un fléau pour le monde et ne fondait que le chaos. Philippe avait 46 ans. Autour de lui se groupait au moment solennel de son expédition un monde d'hommes éminents dans les sciences. Le centre en était Aristote, qui refusa de partir sous Alexandre, mais qui aurait suivi Philippe, et sans doute avec Théophraste, l'illustre naturaliste. L'école d'Aristote y était. Son neveu Callisthène, ses élèves Anaxarque, Pyrrhon, nombre d'historiens, le grand marin Néarque. On devinait parfaitement, d'après le retour triomphant de Xénophon et les succès d'Agésilas, que la guerre ne serait pas sérieuse contre un empire dissous d'avance, qu'on pourrait, fort à l'aise, suivre l'armée, étudier, connaître parfaitement le pays, fixer surtout les points où l'on créerait des colonies. La plus importante était Prête. Une masse de Grecs, soldats, marins, marchands, occupaient le rivage de l'Égypte. Philippe n'avait qu'une épine, sa barbare épirote qui tâchait d'empêcher son départ, en armant contre lui l'épire et ce fils de Sabas, ce dangereux jeune homme, très convaincu de sa divinité et capable de tout pour renverser les résistances. La mère, le fils, avaient pour eux les temples. Philippe, ayant voulu encourager les siens en emportant un oracle de Delphes, n'a eu que celui-ci, à deux sens, qui causa sa mort. Le sacrifice est prêt, le taureau couronné. Il passa outre, prit femme, eut un enfant. Cela précipita les choses. Olympias le fit tuer et, sous son propre nom, consacra le poignard à Delphes. On put juger alors ce qu'on avait perdu, ce que serait le nouveau règne. La mère prit sa rivale avec l'enfant et les fit cuire dans un vase d'airain. Le fils, en un seul jour, vendit 30 000 Grecs à l'encan, justement les Thébains qui avaient élevé Philippe, fait la grandeur de sa maison. Tout s'aplanit devant le fils des dieux. La lassitude extrême, l'atonie et le désespoir ont pour effet de produire en ce monde la maladie qu'on peut nommer l'épidémie messianique. Tout ce que renfermait la Grèce d'éléments troubles et superstitieux était pour le jeune dieu inauguré par le massacre. On lui voyait la foudre en main, une force réellement énorme et inouïe. Tous les moyens de la sagesse s'étaient accumulés pour la grande entreprise, infaillible et fatale, attendue, espérée, qui devait s'accomplir par les sages ou les fous. L'heure en avait sonné, et la nécessité en était telle que nulle faute d'Alexandre ne l'aurait fait manquer. Il put impunément en faire d'étranges, où tout autre eût péri. Il put livrer bataille aux lieux les plus défavorables. Il put prendre des routes absurdes à travers des déserts sans eau, hasarder son armée et la mettre aux dernières épreuves. Comment cela ? On s'est gardé de vouloir le comprendre. Mais quand on a un peu l'expérience, le sens des forces vives, on devine fort bien que derrière le miracle, il y eut autre chose qu'une bonne armée disciplinée. Il y avait vraiment un dieu et un esprit, l'aile de feu et le souffle de feu, ce que j'appellerais l'âme de la Grèce, qui toujours allait droit, semblait mener, menait, suppléait, réparait, et qui fut réellement l'infaillibilité de la victoire. Les narrateurs ont mis cela dans l'ombre tant qu'ils ont pu, mais Alexandre, avec dépit, le sentait bien, quand il disait ironiquement cette chose vraie. Ne dirait-on pas que les Grecs, au milieu des Macédoniens, sont des esprits parmi les bêtes ? C'était la singularité de la Grèce que depuis 100 ans, dans l'attente des grandes choses qu'on prévoyait, il s'était trouvé beaucoup d'hommes d'équilibre, bons à tout, guerriers et lettrés, philosophes, soldats d'aventure. Tel comme Xénophon avait déjà mordu l'Asie et fait fortune, tel comme le sophiste Clitarque, intrépide et cruel, se faisait tyran d'une ville, tel l'excellent tyran accompli qui donna sa sœur à Aristote. Mais ces tyrannies de cité n'étaient pas pour les satisfaire. Ils avaient de bien autres rêves, Babylone ou Persépolis. Ils savaient que, un moderne l'a dit, on ne travaille en grand qu'en Orient. Dans ces hommes d'élite, de génie supérieur, était une Grèce ambitieuse qui attendait qu'enfin se rompît la barrière, qui suivit Alexandre et le servit trop bien. Ce que Condé et Bonaparte pour la campagne d'Italie eurent l'insigne bonheur de prendre partout et grouper une élite d'officiers hors ligne, cela se fit de soi-même autour du jeune roi, et c'est par là surtout qu'il fut Alexandre le Grand. Les Perses aussi avaient à leur solde des Grecs, mais mutins, peu nombreux, dont on a enflé tant qu'on a pu le nombre. Rien ne fut négligé pour tromper le monde et l'avenir. Force historiens patentés furent amenés. Les généraux eux-mêmes écrivirent, mentirent tant qu'ils purent. Et encore Alexandre ne s'y fiait pas. Il eut le temps, tout le long du chemin, ce qui prouve que la guerre n'était nullement ce qu'on a dit, d'écrire à tout propos à ses amis ou lieutenants de Grèce les nouvelles qu'il faisait courir. Ainsi qu'on a vu Frédéric, au dernier siècle, écrire sans cesse en France et se faire français de son mieux, Alexandre semblait inquiet de n'être pas tout à fait grec et courtisait l'ombre d'Athènes. Partout il emportait Homère et le mettait sous son chevet. Ce qui montre pourtant combien peu il en profitait, c'est qu'au rebours des vrais Grecs qui tous suivaient Ulysse, il prit pour idéal le brutal héros du pays des Centaures, la fougue et la furie d'Achille. Pour imiter Achille et la destruction de Troie, il fit l'horrible sac de Thèbes. Il fit à Ilion, au moment pressé de la guerre, des jeux, de longues fêtes. Quand il eut pris Gaza et le chef de la ville, qui avait longtemps résisté, il imita Achille en le traînant derrière son char par une corde et les pieds percés. Un matin, cet Achille est tout asiatique, il tourne le dos à Homère, à la Grèce. Babylone, la grande maîtresse en prostitution monarchique, fait sur Alexandre en un jour ce qu'elle fit sur les Perses en 100 ans. Spectacle honteux et imprévu. Les vaincus se trouvent vainqueurs. L'Asie, à ce moment si usée, si souillée, à cet état cadavéreux de la pourriture chaldéenne, la vieille Asie a pour amant son maître. Ce sépulcre fardé, l'égout d'amour où le monde a passé, voilà la passion d'Alexandre le Grand. Les modernes sont fous de voir là une sagesse, une politique admirable. Si l'on prenait un peu des mœurs, des idées de l'Asie, ce n'était pas par là à coup sûr qu'on devait le prendre. Il eût fallu le dominer par le haut esprit grec. Il eût fallu, point essentiel, y procéder avec une prudence fort lente, d'intelligent ménagement. Prendre l'Asie par l'enfant Bagoas, les fausses filles, la bonne aventure et la perversité des mages, se jeter tête basse dans la fange et la fosse immonde s'était manifesté le barbare d'origine qui, dans la barbarie impure, se retrouvait chez lui. S'était rappelé sa naissance, le fils de la bacchante, du charlatan Sabas. Son palais était plein de devins et de charlatans. Il ne se fiait plus qu'aux vaincus, les armait impudemment, aveuglément, mais sans précaution. Il élevait, formait 30 000 Perses pour combattre ou chasser les Grecs. Il voulait que ceux-ci, changés en un moment, devenus Perses eux-mêmes, reniant le bon sens, l'adorassent à l'oriental. Ce n'était pas, comme on a dit, chose puérile de vanité pure. C'était chose perverse et calculée. L'adoration était la pierre de touche pour l'abdication du bon sens et de la dignité humaine. Les mages, ses maîtres, sentirent que là serait la limite de l'obéissance grecque, qu'arrêté à ce pas, il haïrait la Grèce et serait perse entièrement. Quand plus tard les Césars firent ces choses, le monde était si bas, tellement amoindri, que tout était facile. Mais au temps d'Alexandre, devant la Grèce encore vivante, dans cette haute lumière de génie, de raison, précipiter l'homme à la bête, c'était un crime fou par-delà les caracalla. Chose curieuse, des Grecs apostats en furent cause en partie. Quand, dans la colère et l'ivresse, il eut assassiné Clitus, le sophiste Anaxarque, qui le voyait pleurer, lui dit en se moquant « Qu'en lui, rien n'était crime, puisqu'il était la loi que Jupiter avait émise pour le servir assis auprès de lui. » Ce mot entra profondément. Dès lors, il se fit adorer. Les Grecs obéissaient, riaient. Un seul ne rit pas, résista. Il déconcerta Alexandre et l'arrêta aux dépens de sa vie. Son nom ne mourra point. C'était le neveu d'Aristote, le philosophe Callisthène. Le plus sûr, le plus grave historien d'Alexandre, son capitaine et ami Ptolémée, roi d'Égypte plus tard, dit positivement que Callisthène, pour avoir refusé d'adorer Alexandre, fut par son ordre mis en croix. Énorme événement. Plutarque, qui avait Ptolémée et tous les historiens contemporains que nous avons perdus, dit qu'Alexandre désormais recula, que Callisthène se perdit, mais sauva la Grèce de ce dernier degré de honte. Moi, je n'en fais pas doute, cet acte solennel fut de portée immense. Ce que la profonde pensée d'Aristote venait de fonder dans la sphère intellectuelle, créant en théorie la philosophie de l'énergie, son neveu le porta sur le terrain des faits, et du haut de sa croix, plus que Zénon, plus que Cléante, il commença le stoïcisme. Œuvre riche et féconde, qui n'est pas seulement la lutte, la défense héroïque de l'âme et de la conscience, de la raison écrasée sous les dieux, mais qui bientôt devient l'heureuse fondation de ce que l'ancien monde a laissé de meilleur, la loi et la jurisprudence qu'en grande part nous suivons encore. La sagesse est posée. Je ne compterai pas la folie. Le nouveau Bacchus pousse aux Indes. Avec quel résultat réel? Est-ce vraiment le génie de la Grèce qui a vaincu et pénétré l'Asie? Le chaos sanglant qu'on va voir, l'éphémère empire grec, est-ce là une fondation? L'Asie n'en a que le mépris, l'horreur, un retour violent à ses dogmes antiques, la fanatique réaction qui, bientôt, fait l'empire des Parthes. L'armée, plus sage que son chef, s'arrête enfin, et le voilà forcé, lui, ce dieu tout-puissant, d'obéir et de retourner. Ce retour est extraordinaire de folie et de désespoir. Son esprit l'a quitté et c'est à peine un homme. Il bâtit une ville à la gloire de son chien, une au tombeau de son cheval. Il joue Bacchus, prend le Tirse, en guirlande de lierre toute l'armée, fait des bacchantes de tous ces vieux soldats bronzés, tannés. Il affiche, il enseigne du haut de ce trône du monde ce que les rois d'Asie cachaient dans leur sérail. C'est déjà Héliogabale, toutes les infamies d'Atys, d'Adonis ou de Sex, l'amoureux de Vénus et l'aimé d'Apollon. Il pleure et festionne avec la furie d'une femme. Il tue les médecins, brûle le temple d'Esculape, force l'oracle d'Amon de faire du mort un demi-dieu. Plus étonnante encore fut la fête d'amour de l'enfant Bagoas, étalée par devant l'armée, scène unique qui manque dans l'histoire des Césars. Exemple si fatal dans un Alexandre le Grand, qui, du poids de sa gloire et d'une autorité immense, allait peser sur l'avenir, qui fit les Césars même, fit les mœurs militaires des armées, la morale des soldats et des rois. À ce spectacle étrange, monstrueux, l'armée d'Alexandre applaudit, de risée, mais aussi d'une joie sauvage de se sentir lâché dans les libertés de l'outrage, le cruel carnaval qui dura si longtemps. Tous sont émancipés pour toutes les ordures de la guerre. Une fausse Grèce, effrénée de tout peuple, mettra le monde à sac. Chacun, pour l'infamie, sera Bacchus, Sabas, chacun Alexandre le Grand. Vaste est son héritage. Il consiste en trois choses. Premièrement, il a tué l'espoir, la dignité humaine. Chacun jouait du sort, rencontrant devant soi des forces énormes, imprévues, fortuites, désespère de soi-même, devient faible et crédule. Partout des pleurs, partout des mains levées au ciel. Un immense commerce d'esclaves. Les marchands suivent les soldats. Ces masses infortunées de Syrie, de Phrygie, du Haut-Orient même, abrutissent l'Europe de leur folie messianique. Deuxièmement, Alexandre tua la raison. Le fait prodigieux de son expédition rendit tout croyable, acceptable. On ne se souvint plus qu'avec 10 000 hommes, Xénophon, avec 6 000 Agésilas, avait mis à néant tous les efforts des Perses. On ne se souvint plus que le miracle d'Alexandre avait été arrangé, préparé par un concert de choses raisonnées depuis 200 ans. On fut stupéfié à toute chose absurde, insensée, chimérique, dont on aurait ri jusque-là. On baissa tristement la tête en disant « Pourquoi pas ? C'est moins qu'Alexandre le Grand. » Des gens d'esprit comme Pyrrhon devinrent absolument sceptiques. Il avait suivi, vu la chose, et il n'y pouvait croire. Elle semblait un rêve, et tout dès lors aussi lui parut incertain. La plupart, au contraire, tombèrent à la foi idiote des fables monstrueuses. Évémère, platement, disait que tout dieu fut un roi. Plus platement, ils crurent que tout roi était Dieu. Et pourquoi un serpent divin n'aurait-il pas, pour sa Léda, pris la mère d'Alexandre ? Mystère, profond mystère. Taisez-vous, raison imbécile. Sans doute, les Socrates ne l'avaient pas prévu. Qu'importe, Alexandre s'en passe. Suffit que ses miracles aient prouvé sa divinité. Dès lors, nombre de rois sont dieux et fils de Dieu. Le thème est fait. On pourra copier. La mère d'Auguste vous déclare qu'elle eut les faveurs du serpent, que le gluant reptile a mis dans son sein les Césars. Troisièmement, la sotte imitation est loi de ce monde. Osiris est copié par ses Ostrys en ses conquêtes. Celui-ci par Sémiramis avec très peu de variantes, et Bacchus en sa guerre des Indes, en sa conquête de la terre, copie ses vieilleries d'Orient, ainsi que Bacchus Alexandre sera à son tour imité par les Césars, les Charlemagne, Louis XIV, etc. Mais le vrai fondateur en toute sottise monarchique est plus que tout autre Alexandre, non seulement à cause de l'autorité infinie de sa gloire, mais parce que de lui date pour notre Europe la mécanique royale, conservée, imitée servilement. L'idée du roi moderne, la cour et l'étiquette nous viennent exactement de lui. L'ancien roi d'Orient, le roi patriarcal, sacerdotal, a l'onction, le sceptre de prêtre plutôt que l'épée. Le tyran grec est un chef populaire qui a l'épée, la force. Deux genres d'autorité qui, pour la première fois, s'unissent en Alexandre. Dès lors, la double tyrannie en un seul pèse sur la terre et pèsera, car le roi moderne, autant chrétien, tout en portant l'épée, a la chape, le caractère prêtre. C'est par là que les mages prirent si aisément Alexandre. Son entrée triomphale à Babylone est curieuse comme idolâtrie politique, divinisation de la royauté. Par un chemin jonché de fleurs, entre deux longues files d'autels d'argent où fumaient les parfums, l'énorme Babylone, tout entière, richesse et plaisir, science et art, musique, astronomes, femmes et lions, léopards privés, jolis enfants fardés, mignons de Milita, tout cela vint se prosterner. Il en est ébloui, enivré à ce point que ses maîtres et corrupteurs en font tout ce qu'ils veulent. Ils lui font accepter les purifications des mages, si impurs. Ils lui font accepter leur puérilité solennelle, lui constituent un sérail de 365 femmes au nombre des jours de l'année. Ils l'affublent du sidarim, le diadème, de mitra, de bacchus, loin de la myrrhe qui des rois fait les dieux. Maison d'or, trône d'or, sceptre d'or, le bric-à-brac royal, il lui impose tout cela avec les comédies de l'aigle, l'aigle-lion, le griffon, tout ce que les Césars ont mis plus tard sur leurs enseignes et la féodalité dans ses beaux mystères héraldiques. Plus une étiquette assommante de 7 dégustateurs, de 7 grands attachés à sa personne, 7 planètes du soleil royal, un soleil chevelu, il doit porter les cheveux longs. On aperçoit d'ici les fausses chevelures romaines et la perruque de notre roi soleil.